Bienvenue sur Radio Comédie, tous les jours de 17h à 18h sur LFM.
Bonjour, c'est Johanna sur Radio Comédie.
Bonjour, c'est Ninon sur Radio Comédie.
Bonjour, c'est Agnès, on est sur Radio Comédie.
Tous les jours de 17h à 18h sur LFM. Pendant toute la durée du Festival Comédie, Festival Théâtral du Sud Sauvage, du 26 avril au 6 mai 2014. En direct et en public du studio des 4 du lycée Pierre Poivre à Saint-Joseph.
Bienvenue sur Radio Comédie.
Bonjour à vous. Je vais vous présenter nos chroniqueurs d'aujourd'hui. Nous serons avec Anthony Fontaine, Barry Clémentine.
Bonjour.
Et moi-même, Mathieu Siaco. Et à la technique, Clémence Warraud.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Comédie.
Aujourd'hui, nous allons vous proposer tout d'abord deux entretiens. Avec les fourmis rousses, Alice pour le moment. Ensuite, les gorées lyriques. Excusez-moi, je crois que je me suis trompée. C'est plutôt l'envolée lyrique, avec leur spectacle Cozy Fun Tuesday.
Là, vous entendez des cochons derrière, ce sont donc les femmes de la compagnie qui excellent dans le bruitage du cochon. Et comme vous pouvez l'entendre, voilà. On a présenté ici Cozy Fun Tuesday de Mozart, adapté par la compagnie L'envolée lyrique.
Et comme chaque jour, votre épisode, mort d'un coupure de canne dans un champ de betteraves, avec les élèves du lycée Pierre Poivre.
Cinquième épisode. Et pour terminer, nous allons avoir l'avis des chroniqueurs sur le spectacle qu'ils ont vu aujourd'hui.
Bonne écoute sur Radio Comédie.
Bienvenue sur Radio Comédie, tous les jours de 17h à 18h sur LFM.
Mais tout de suite, on retrouve nos invités, Mathieu Suaco et Clémentine, pour qu'ils nous présentent leur projet de comédie musicale avec le lycée Pierre Poivre. Alors Mathieu, parle-nous un peu de ce projet.
Alors la comédie musicale a été créée par Catherine Samalens.
Et son mari, Chévry, Monsieur Chévry.
En fait, le livret a été créé par Catherine Samalens, la mise en scène par Monsieur Chévry, et tous les arrangements musicaux sont faits par Henri Claude. Et les danses sont créées par Tina et Sandy. Comme projet, nous avons prévu de partir en Pologne pour montrer la culture réunionnaise, montrer notre spectacle, Piaf, tu connais, qui a déjà eu lieu à La Réunion. On a fait plusieurs représentations, comme le mardi 22 avril au Lucie Langenais. On a fait l'après-midi et le soir. L'après-midi, c'était pour les lycées, les collèges, l'école primaire. Et le soir, tout public. Alors, là, samedi dernier, c'était à l'auditorium de Saint-Joseph. Représentation publique. Le vendredi et le jeudi, c'était représentation scolaire. Et la semaine d'avant encore, on a fait à Petite-Île, représentation publique.
Comment ça se passe, vos représentations? Les gens aiment bien ou...
Il faut savoir captiver le public.
Et dites-nous, alors, ça parle de quoi, cette comédie musicale?
En fait, le titre de la comédie musicale s'appelle Piaf, tu connais. Alors, ça parle de Edith Piaf, de sa vie, quand elle est née. On a chanté plusieurs de ses chansons. On a vu tous les artistes qu'elle a rencontrés, comme Georges Moustaki, Montand, comme Jacques Pils, un tas d'artistes. Vraiment.
En fait, vous faites un peu le tour de Edith Piaf.
Oui.
D'accord.
On devrait peut-être ajouter que Mathieu Suaco, ici présent, a joué le rôle principal dans la pièce, dans la comédie musicale, qui est en fait l'un des amis de Léa. Qui fête son anniversaire. Et donc, du coup, c'est après à cette occasion-là qu'on va voir Piaf. C'est-à-dire qu'au début, il va simplement lui donner un CD, Piaf, de Piaf. Et Léa va lui demander, mais c'est quoi ça? Je ne connais pas du tout ce registre. Et donc, du coup, c'est à partir de là qu'on va débarquer sur sa vie, comment ce qu'elle est devenue. Et enfin, bref, quoi, c'est notre pilier, c'est le pilier de la comédie.
On peut applaudir, hein.
Et donc, vous allez aller en Pologne?
Oui, dans deux villes différentes. On va chez des correspondants. Là-bas, on va montrer la culture réunionnaise. En fait, Mathieu Rémul, Ségolène, plein d'artistes de la comédie musicale viennent avec nous. Et on va faire des représentations là-bas. On va faire des chansons créoles. Clémentine et moi, on danse dans une même chanson. On va faire la comédie musicale. On va faire plein de choses là-bas, en fait. On va faire des représentations de comédie musicale, des représentations pour montrer la Réunion, voilà.
Et avec ça, bien sûr, pour accompagner des petits spectacles d'une heure, où, comme Mathieu l'a dit, on va représenter à peu près la culture de La Réunion. Et à l'intérieur de ces petits spectacles, il y aura des extraits des chansons de la comédie musicale.
Et donc, comment vous allez représenter la culture réunionnaise en Pologne ?
À travers le maloya. Et oui, bah, notre prof, elle a opté pour l'un des symboles de La Réunion. On sait très bien qu'ici, c'est le soleil, la chaleur. Donc, pourquoi pas là-bas porter carrément nos costumes de maloya avec les robes, les chemises. Mais tout ça va commettre être fait pendant des cabarets. Tout comme ici à La Réunion, à Saint-Joseph, il y a le cabaret de Saint-Jean qui se fait plusieurs fois dans l'année. Là-bas aussi, ils ont des cabarets. Et c'est pendant l'un de ces cabarets qu'on va leur présenter sans doute nos spectacles avec les filles en maloya, Mathieu et moi qui dansons dans Au Manzel.
ça a l'air marrant.
Surtout des chansons traditionnelles.
Voilà. Ça s'appelle plutôt Maloya ou Sega ?
Les deux.
Et dans chacune des villes, il y aura aussi un flash mob qu'on va essayer de faire avec eux en leur montrant des danses qu'ils ne connaissent pas forcément. Et je pense que ça va être assez rigolo.
Pour être assez rigolo, oui, ce sera assez rigolo. Parce que le flash mob sera sur Soukous Express.
C'est quoi Soukous Express ? J'arrive même plus à le prononcer.
Express.
Soukous Express, qu'est-ce que c'est ?
C'est une chanson.
D'accord. Moi, j'ai une petite faveur à vous demander. Est-ce que vous pouvez nous chanter une petite chanson, un petit extrait de la comédie musicale pour qu'on ait un petit peu...
L'envie.
Voilà, l'envie.
Mais moi, il y a une chanson de la comédie musicale que j'adore vraiment, c'est L'homme à la moto.
D'accord, on vous écoute.
Je vais essayer de chanter. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région.
Jamais il ne se lavait, jamais il ne se coiffait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ».
Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge.
Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chaîne de moto bien davantage.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos.
Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région.
Bravo, c'était super.
Merci pour toutes ces infos.
À bientôt, j'espère.
Et bon voyage.
Merci
à vous de nous avoir accueillis sur ce plateau.
Je marchais sur le chemin, dans le sens contraire au sens du vent. Je marchais, ce jour-là, comme tous les autres jours, tête baissée, emmitouflée, camouflée dans une vieille veste parka militaire beaucoup trop grande pour moi, beaucoup trop verte pour moi, qui aimait tant le jaune, celui des tournesols, celui des pissenlits.
Moi, j'aime le jaune des coquelicots.
Aurait pu dire mon père.
Si tu veux marcher un jour, cherche d'abord la verticale. Si par bonheur tu la trouves, accepte-la et marche. Sinon, pourquoi tant d'efforts pour rester éveillé ?
Je marchais donc, au rythme résigné de celui ou celle qui a depuis longtemps renoncé à contredire le naturel du mouvement. Les garçons, eux, en petite bande de garçons, marchaient en file indienne sur le bord en granit du trottoir. Ils se servaient de leurs bras pour tenir en équilibre, fermer les yeux par instant pour compliquer le jeu, et marcher à reculons. Certains marchaient à reculons, les yeux fermés. Les plus doués, ils n'étaient pas nombreux, couraient sur l'arête du trottoir, à reculons, les yeux fermés, les mains dans les poches. Chaque exploit était salué, comme on salue un exploit depuis la nuit des temps, par des cris de joie et des hurrahs de victoire des champions.
Bonjour, c'est Morgane, nous rencontrons la compagnie Les Fourmis Rousses, pour Radio Comédie, nous sommes à l'auditorium de Saint-Joseph avec
Marielle,
Didier,
Maxime
et Aurélie et Mathieu vont arriver.
Léo, ciao.
Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors moi je suis Marielle Beauce et je suis la metteur en scène.
Je suis Didier Lagana, je suis comédien et j'ai fait la scénographie.
Maxime Boffet, je suis régisseur vidéo.
Juste une petite question, par curiosité, pourquoi avoir choisi ce nom pour la compagnie ?
Quand on a fondé la compagnie en 2004 avec Marielle, il fallait trouver un nom. Il se trouve que depuis tout petit, j'ai une passion pour ces petites bébêtes, les fourmis. Que d'un point de vue symbolique, la fourmi, c'est une société non hiérarchisée qui travaille ensemble, voilà, et qui c'est un petit animal tenace, opiniâtre, tout ça. Donc ça nous plaisait bien, cette idée de collectivité, de petites choses pour en faire des grandes. Donc les fourmis et rousses, pourquoi rousses? Parce que ça fait, c'est une variété de fourmis super intelligentes.
Comment la compagnie a-t-elle été créée?
Alors la compagnie a été créée, donc, comme Didier l'a dit tout à l'heure, en 2004, par nous deux, par Didier et moi. On a été assez vite rejoints par d'autres personnes, notamment une administratrice qui s'appelle Claire Bory, par d'autres comédiens, Eric Collonge et Sandrine Clémenceau. Et puis après, en fait, c'est en suivant les projets qu'il y a d'autres personnes qui viennent sur les projets, voilà.
On travaillait tous les deux, on travaillait déjà avec d'autres compagnies et on avait envie d'avoir une compagnie à nous pour pouvoir développer des projets personnels.
Comment s'est déroulée la réalisation de la pièce ?
On a commencé à travailler il y a 3 ans sur ce projet avec Aurélie, tout d'abord parce que c'est la co-directrice artistique du projet avec moi, c'est-à-dire qu'on a imaginé beaucoup de choses ensemble, on a rencontré beaucoup de monde ensemble. Voilà, donc, et puis on a eu un coup de cœur toutes les deux sur ce texte. Donc ça a commencé il y a 3 ans, parce que c'est d'abord un travail long et laborieux de recherche de lieux pour nous accueillir, de sous pour le monter. Voilà, donc et quand la production a été à peu près viable, on s'est mis sur le travail vraiment sur le plateau et on a eu 11 semaines de création. Voilà.
Est-ce que vous pouvez présenter rapidement la pièce Alice pour le moment ?
Alors Alice pour le moment, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 30 ans et qui décide de revenir sur son passé, enfin, qui a le besoin de revenir sur son passé pour raconter une partie de sa vie entre 13 et 16 ans, dans son adolescence, et elle l'a vécu dans un contexte particulier qui est celui du déplacement permanent, de l'exil, parce qu'elle est réfugiée, fille de réfugiés politiques chiliens. Voilà, donc elle raconte cette partie-là de sa vie et particulièrement les affres de l'adolescence qui sont en plus exacerbées chez elle parce qu'elle elle se déplace tout le temps.
Vous avez choisi ce thème ?
On n'a pas choisi un thème, on a choisi un texte. À la base, moi j'ai lu ce texte et ça a été comme un peu une évidence, une envie très forte de le traverser. Et donc après, le projet s'est construit autour de ça, avec Marielle, puis on a réuni une équipe, voilà, pour le monter. Mais c'est d'abord une envie de partager cette parole-là et cette écriture.
D'autant que les thèmes sont multiples. Ça parle effectivement de l'adolescence, du passage de l'adolescence à l'âge adulte, des premiers émois amoureux. Il y a la dimension politique du fait qu'elle est fille de réfugiés. Voilà, il y a plein de thèmes, plein d'entrées différentes. Le regard de l'autre, parce qu'elle subit, notamment dans la première scène, une violence, parce qu'elle est juste différente. Et ça, c'est assez quotidien. Être différent, c'est quoi ? Ça peut être physique, ça peut être l'origine, ça peut être la condition sociale ou économique. Il y a plein de choses qui font qu'on est différent. Et comment justement, quand on est ado, comment on peut souffrir d'être du regard des autres, du jugement des autres ? Voilà. Et ça, donc, du coup, c'est plus universel. C'est l'histoire d'Alice, mais c'est aussi l'histoire d'un peu chacun de nous.
La pièce raconte l'histoire d'une jeune réfugiée chilienne. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la situation dans laquelle est le pays à cette période ?
En 1973, tu as une république avec un président qui s'appelle Salvador Allende. Et il va y avoir un coup d'état militaire. Salvador Allende va être assassiné. Et le général Augusto Pinochet va s'emparer du pouvoir. 21 ans. 21 ans de dictature politique, très très dure. Toutes les dictatures sont dures par définition, mais Augusto Pinochet était particulièrement cruel. Il a pendant 20 ans consciencieusement fait arrêter, torturer et assassiner tous ses opposants. Voilà. C'est pour ça que l'exode chilien était massif. Max disait tout à l'heure, plus de 15 000 Chiliens sont arrivés en France entre 73 et 75. Voilà, fuyant le pays. Et voilà, donc c'était ça, c'était le contexte de leur immigration, il est là.
Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa.
Combien d'entre vous, Chiliens, avez entendu son dernier message radio lancé depuis la Moneda bombardée?
Je ne me retirerai pas. Je ne me retirerai pas. Placé dans une situation historique, je paierai de ma vie la loyauté que le peuple m'a confiée. Et je vous dis ma certitude que cette semence répandue dans la conscience et la dignité de milliers de Chiliens ne peut pas être définitivement enterrée. Ceux qui ont la force en ce moment peuvent nous asservir. Mais on n'arrête pas une société en marche par le crime ni par la force. L'histoire est avec nous et ce sont les peuples qui font l'histoire. Travailleurs de ma patrie, je vous remercie pour votre loyauté, pour votre confiance en un homme qui n'a rien été d'autre que l'interprète d'un immense désir.
Salvador Allende est mort.
Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende is dead now. Is dead now. Díganme si entienden.
Entendido, digo perfectamente, cambio.
Compatriotas.
Porque estoy aquí donde mis compañeros de clase defendiendo el gobierno de los trabajadores. Estaré aquí hasta la muerte si es necesario.
Compañero, yo estoy aquí a las 7 de la mañana, compañero, por una convicción primero. Soy padre de 12 hijos. Sé claramente que esta lucha de este gobierno no es para mí. Son pocos los días que me quedan de lucha y sacrificio. Es para mis hijos.
Aquí lo que defendemos nosotros es el poder constitucional. Estamos contra el fascismo. Estamos con el gobierno popular.
Y porque creemos que es una lucha justa la que se está dando en este momento, venimos a defender la posición de todos los trabajadores a través de estos movimientos. No queremos que por un grupo de privilegiados, como son los mineros del teniente, este gobierno vaya a tener problemas. Todo lo contrario, nosotros vamos a defender la posición de este gobierno hasta las últimas consecuencias.
Que nunca en nuestra historia hubo un acto de la magnitud y del contenido de este. Ha habido que innovar en todos los métodos para poder tener siquiera y aproximadamente una dimensión de la extraordinaria, combativa y enorme multitud. Jamás en la historia de Chile el pueblo estuvo más combativo y presente. Aquí se siente la historia.
Salut, c'est Antoine au Palais de Justice de Paris pour cette dernière journée d'audience aux assises du procès de la dictature chilienne à Paris. Un procès historique, un procès intenté par les familles de quatre victimes franco-chiliennes disparues après le coup d'État de Pinochet en 73, le 11 septembre 73. Compañero Georges Klein, presente. Compañero Étienne Pell, presente. Compañero Alphonse Chanfro, presente. Compañero Jean-Yves Claudet, presente. A repris l'assistance après le plaidoyer hier de Maître Sarfati, avocat du groupe des familles des disparus du Chili. 37 ans plus tard, pour restituer la vérité et faire œuvre de justice, aujourd'hui, ce matin, l'avocat général Maître Kramer a requis 20 ans de réclusion criminelle pour les trois responsables de la DINA. La DINA, la triste célèbre police secrète de la junte militaire de Pinochet. Et 15 ans pour les 11 autres accusés, poursuivis pour séquestration assortie d'actes de torture et de barbarie. Hasta luego, compañeros.
Compañero Pablo Neruda.
¡Presente!
Compañero Salvador Allende.
¡Presente!
Compañero Víctor Jara.
¡Presente!
Bienvenue sur Radio Comédie, tous les jours de 17h à 18h sur LFM.
Alors, je m'appelle Henri de Basselot, et on a présenté ici Così fan tutte de Mozart, adapté par la compagnie L'Envolée Lyrique. On est tous des chanteurs au départ et comédiens, donc c'est un joyeux mélange. C'est une adaptation, donc c'est un opéra qui a été composé par Mozart et dont le livret a été écrit par Lorenzo da Ponte. Et on l'a adapté, c'est-à-dire que tous les récitatifs ont été réécrits, traduits de l'italien et réécrits en français, pour faire qu'on arrive à livrer l'œuvre en 1h30 plutôt qu'en 3h30. C'est que c'est un format qui permet de faire apprécier la musique, puisqu'on a gardé beaucoup d'air et beaucoup d'ensembles chantés, qui sont chantés en italien. Et donc ça permet de faire entendre cette musique-là, d'être porté par des textes plutôt joyeux, d'avoir inséré pas mal de scènes de burlesque pour servir le propos des auteurs, mais de faire quand même entendre cette musique-là par le prisme de cette adaptation. Donc c'est une musique qui est réservée à, qui n'est pas réservée à certains endroits, puisque c'est une musique qui est quand même assez populaire, qui était populaire à l'époque, puisque quand Mozart a créé par exemple la flûte enchantée, c'est quelque chose qu'il a écrit pour une troupe de comédiens et qui a été joué pour la première fois dans un théâtre assez populaire. Il se trouve que Così fan tutte, c'est pas le même cas, puisque ça a été commandé par l'empereur Joseph II. Et là, vous entendez des cochons derrière, ce sont donc les femmes de la compagnie qui excellent dans le bruitage du cochon. Et comme vous pouvez l'entendre... Voilà. Non, quand je dis cette musique-là, voilà, c'est la musique de Mozart. Après, ça pourrait être la musique d'un autre compositeur d'opéra, mais en tout cas, les opéras qui sont faits dans des maisons d'opéra sont faits toujours dans leur intégralité ou presque. Et parfois, ça le rend un peu plus difficile d'accès, ne serait-ce que par la durée, pour réussir à assister à Così fan tutte en entier. En opéra, c'est souvent 3h, 3h30, et la musique reste aussi belle, mais le propos du coup, est un peu plus dilué. Surtout aujourd'hui, on a une habitude de récits et de scénarios très rapides à cause de la télévision et du cinéma. Donc là, le but était d'aller comme ça dans une formule assez rapide, assez sportive, assez punchy, qui permettent de faire cette musique tout en s'amusant et en amusant le public sans discontinuer, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de moment d'ennui. Moi j'entends souvent, et même moi personnellement, parfois à l'opéra je m'ennuie, et je ne considère pas qu'on doive s'ennuyer devant un spectacle ou devant... D'ailleurs on n'aime pas aller voir un spectacle ou aller au cinéma ou quand ça nous ennuie. L'ennui, après, pas grave, il y a quelque chose de contemplatif parfois qui est intéressant. Il y a des moments d'ailleurs contemplatifs qui sont gardés, puisqu'ils ont été écrits comme ça et c'est important de les garder. Et ce côté contemplatif est toujours le ressort d'une émotion plus forte et plus dense, comme vous pouvez l'entendre derrière.
Vas-y,
ah, c'est doux. Et Ronron, tu sais même
sur Radio Comédie, en direct et en public du studio D4 du lycée Pierre Poivre à Saint-Joseph, avec Rachel, Jade, Valentine, Morgane, Romain, Lisa et Luis.
Tous les jours de 17h à 18h sur LFM. Pendant toute la durée du Festival Comédie, Festival Théâtral du Sud Sauvage, du 26 avril au 6 mai 2014.
En public du studio D4 du lycée Pierre Poivre à Saint-Joseph.
Vos diffusions le lendemain de 11h à midi.
Et tous les jours, retrouvez votre feuilleton préféré, mort d'un coupeur de canne dans un champ de betteraves.
Festival Comédie, le festival du Sud Sauvage, du 26 avril au 6 mai 2014. C'est la 7e édition.
Festival Comédie 2014, atelier de création radiophonique avec les élèves du lycée Pierre Poivre de Saint-Joseph. Mort d'un coupeur de canne dans un champ de betteraves. Une dramatique radiophonique de Sylvie Gravagna, réalisée par Antoine Chao.
Bienvenue sur Radio Comédie. Cinquième épisode.
Je le piné Joseph, né à Goyave. Suis parti à la guerre en 14, n'en reviens jamais. Engagé pour le 4e régiment de Zouave, mon corps se perdit dans les tranchées de Turquie en mai 1916.
que c'est encore le début du choléra? Là, il sent pas mal trop bien, sergent.
Allez, soyez vaillants. Le moral, c'est important. Surtout ici, où il n'y a rien de rien qui va. En France, il y a des moments de repos. On mange des trucs frais, on boit de la bonne eau. On se requinque. Ici, quinine. Allez, faut pas se laisser aller, le petit bleu.
Vos naïs chantent, les turcos.
Ils nous appellent à la prière, pour nous faire changer de camp.
Qu'ça bonne à y croire.
On est venu aider les Anglais à combattre les Turcs, qui empêchent de passer les Russes. L'état-major avait plus que les troupes coloniales à envoyer. Mais les Turcs ont lancé un appel à la guerre sainte, pour que les musulmans les rejoignent et trahissent la France. Alors on a envoyé les créoles. C'est simple à comprendre, non?
Tais, on a la chance qu'on prenne nos affaires à la guerre, mais Jazza ne comprend pas rien. Moi, mieux vaut venger mon mandalon que les sales Turcs ont zigouillé par les ponts pour. Et comprenez les affaires, il y a un bac qui est là, il débarque au Tiaba, il dit au premier village, nous prend aller après la rivière des Rouges, comme une culotte fantassin. Après, il dit à nous sorte et il perd la moitié du régiment. Il connaît toujours pas pourquoi.
Quand j'étais en classe, j'ai appris l'histoire de France. Elle nous parlait de guerre. Ce n'est plus du tout ça. C'est une boucherie d'hommes.
Un télégramme du front d'Orient, monsieur le ministre.
Je vous écoute.
Vent très froid et nuit pénible qui ne sont cependant que commencement de la saison d'hiver. Affectation voie respiratoire chez troupes sénégalaises et contingent créole. Plusieurs cas pieds gelés. Je vous rends compte afin que vous puissiez prendre, si vous le jugez opportun, mesure demandée par rapport précédent.
Nom d'une pipe! Rappelez-moi le nom du jean-foutre qui a jugé malin d'envoyer les créoles là-bas, car le climat leur était plus adapté, et apportez-moi ce rapport.
On n'avait plus que ça à envoyer aux Anglais.
Certes, certes, bien. Ah oui, camp d'hivernage. Ordonnez au général de rapatrier les moins vaillants sur Oran. Que vont penser les Anglais?
Oh, ils ont les mêmes ennuis avec leurs Néo-Zélandais.
Ah, bien, bien. Au suivant.
Télégramme de Pouilly en Artois, monsieur le ministre.
Je vous écoute.
Madame, madame! Une lettre de France! Donne, donne! Oh ma chérie, ouvre-la, j'ai les mains qui tremblent.
Marie, Marie, une lettre de Louis-Joseph.
Oh, une lettre de mon frère.
Lis, lis! Les mots se brouillent devant mes yeux.
Presqu'île de Gallipoli, le 10 juillet 1915. Chère maman, quel bonheur de recevoir votre lettre du 30 avril, malgré que je me trouve dans une dure situation. Le 4e Zouave dont je fais partie est en première ligne. Il nous reste 30 minutes avant d'aller à la charge.
Mon Dieu.
En vous écrivant à ce moment, à chaque instant, il faut que je me couche à plat ventre pour me parer des shrapnels et des obus, car les Turcs nous bombardent comme des cochons.
C'est quoi des shrapnels?
Des bombes.
Des bombes, ma chérie.
Je vous écris le plus vite que je peux, car je ne sais ce que Dieu me garde, et tout au moins, j'aurais eu le bonheur de vous répondre, car c'est mon seul plaisir de vous faire savoir ce que je fais ici.
Mon tout petit.
Remplacé par un homme de mon escouade de façon que je puisse vous l'écrire.
Il fait un soleil très chaud. La fumée du canon, l'odeur de la poudre et le fort bruit des mitrailleuses me cornent les oreilles. Je connais maintenant ce qu'est la guerre. Et c'est affreux.
Ouvrez grand les fenêtres.
Je suis heureux car j'ai échappé de la mort dans l'attaque générale du 21 juin, même si j'ai perdu mon sac et tout son contenu. Renvoyez-moi des photos de la famille, de la maison et de mon île chérie.
Ah.
Nous avons foncé sur les Turcs à la baïonnette, nous les avons repoussés et pris de longues lignes de leurs tranchées. Quand nous sommes arrivés dans leurs tranchées, ils étaient morts, la plupart entassés les uns sur les autres. Et cela, sur une longueur de plus de 200 mètres.
Quelle horreur.
C'est la Légion, les coloniaux et les Sénégalais qui ont pris part à cette attaque. De tous les créoles qui sont venus ici, il ne reste plus que le quart. Les Anglais aussi ont beaucoup perdu.
Qu'est-ce qu'ils ont perdu, maman ?
Des hommes, ma chérie.
Mais qu'est-ce qu'ils veulent gagner?
Je sais plus, ma chérie. Maintenant où nous sommes, le terrain est un peu difficile et je me sens fatiguée. J'ai passé 10 jours sans manger. Ici, l'eau est mauvaise. Mais maintenant, je mange bien. Riz au bread sans bread. Je commence à reprendre mon corps.
Apportez-moi un peu de rhum.
Jusqu'ici, ma mère, Dieu veille sur moi. Continue à prier pour moi. Pensez-moi toujours vivant. Je vous embrasse de tout mon cœur.
Allons prier, mes chéris.
Thank you.
télégramme des Dardanelles, monsieur le ministre.
Je vous écoute.
De janvier à juin 2016, 5000 morts. 50 000 cas de paludisme. Moustique plus dangereux que bulgare. Origine fléau. Ponte des œufs facilitée par terrain remué.
Foutu tranché.
Je vous rends compte afin que vous puissiez prendre, si vous le jugez opportun, mesure demandée par rapport précédent.
Nom d'une pipe. Rappelez-moi le nom du Jean Foutre qui a jugé malin d'y envoyer les créoles parce qu'ils sont habitués au paludisme. Et apportez-moi ce dossier.
Vous n'avez plus que ça envoyé.
Bien. Ah oui, des centres hospitaliers pour les paludéens. Voyez avec les services sanitaires et mettez ça sur pied, mon petit. Et quand on ne parle plus des Anglais et du Front d'Orient. Au suivant.
Télégramme de Verdun, monsieur le ministre.
Sergent, vous pouvez écrire à moi la carte pour ma fiancée?
Oui, mon vieux. Passe.
Écris, ma doudou, m'y va bien. Inquiète pas ou plus pour la blessure de froidure. M'a ressorti de l'hôpital avec mes deux mains. Mais je repartirai me battre, mais qu'après l'hiver.
Attends,
hein.
attends un peu.
Ah, excuse-moi.
Enlève les mets et dis plutôt, je repartirai enfin me battre après l'hiver.
Ou rigole, mais pas pressé.
Ça passera mieux au contrôle postal, crois-moi.
Pff, ça va pas la rassurer. Elle va croire que je suis passé fou.
Ça rassurera ses cousins quand leur tour sera venu.
Ouais. Écris, je suis à Oran, en Algérie. N'a pas de la neige, mais n'a pas beaucoup de confort.
T'avais du confort dans ta case?
T'es pas 40. Écris. Mais à côté des tranchées, c'est le paradis.
Contrôle postal.
Pff, j'ai pas dit en faire. Écris. Moi, ça va. J'ai pas eu les oreillons ni rien. Et si on attend les beaux jours?
Tu lui dis pas que tu améliores tes techniques de combat?
Non. Ça va l'inquiéter. Écris plutôt. Je te dis oui pour que nous marier à nous à distance.
Félicitations, tu as raison de penser à ton avenir.
Ouais, comme ça, elle touche la pension si je meurs. Écris, j'ai hâte de te voir, de t'embrasser, de te caresser, comme un mari et sa femme. Et... Non, gomme.
Oh, ça passera au contrôle postal, ça prouve que t'es en forme.
Oh, ça passera pas aux oreilles de monsieur le curé, hein, qui lui lira la carte à ma fiancée.
Dis donc, j'avais pas vu l'image, c'est effrayant.
Elle est jolie, hein. Elle est presque vraie.
Ça m'épate que ça ne soit distribué quand même.
Ouais, vu, m'entourer le bonhomme effrayé au fond là-bas de la tranchée, avant de sortir.
Avec un pistolet dans le dos.
Et ajoute, ça me ferait plaisir de recevoir du piment, des achats de citron et quelques tranches de papaye. Signé Ton Gugus. Et mais si m'y pense à Saint-Denis, nous n'aurions jamais connu à nous? Sergent.
Ah non, je parlais pas au noir, moi. Allez, rassemblement. Debout, Gustave. Découpillage et lancer de grenade.
Ouais, après on va à la pêche.
Ah non, j'ai rendez-vous en ville.
C'est bien ce que je disais, sergent. Je, Casal Emmanuel, de la Crète, 35e régiment d'infanterie, de la 19e compagnie, m'y pense à la dernière lettre que mon petit femme l'a envoyée à moi. Le sourire, mon petit madame, il manque à moi. Moi, elle est morte en Grèce, en 1916.
C'était le 5e épisode de Mort d'un coupeur de canne dans un champ de betterave, avec Steven, Samuel, Mathieu, Émilie, Laurie, Ophélie, Antoine, Alexandre, Jean, Alexis et Anthony.
Et à demain pour le prochain épisode.
Festival Comédie 2014, atelier de création radiophonique avec les élèves du lycée Pierre Poivre de Saint-Joseph. Mort d'un coupeur de canne dans un champ de betterave. Une dramatique radiophonique de Sylvie Gravagna, réalisée par Antoine Chao.
Bonjour, je m'appelle Maïe Laurie et j'ai bientôt 17 ans. Je découvre des choses. J'ai joué le rôle d'une grande sœur qui lisait la lettre de son frère qui était parti à la guerre. Et c'est celui qui m'a plu le plus.
Presqu'île de Gallipoli, le 10 juillet 1915. Chère maman, quel bonheur de recevoir votre lettre du 30 avril, malgré que je me trouve dans une dure situation.
Bonjour, je m'appelle Fontaine Anthony, j'ai 15 ans, bientôt 16 ans.
Est-ce que ça t'a plu de faire cette histoire de...
Bah oui, bien sûr, c'était super cool. Et je me suis fait des nouveaux amis et tout. J'ai bien aimé les textes et ça m'intéresse beaucoup la guerre de 14-18 parce que déjà il y a des gens de ma famille qui y ont participé et que j'aime bien savoir mon histoire en fait. Enfin, voilà.
Et qu'est-ce que tu as appris ?
J'ai appris que les Réunionnais en fait étaient beaucoup de chair à canon, enfin c'était beaucoup de boucherons, on va dire, parce que ils portaient à la guerre, mais pour se faire tuer en fait, c'est comme des boucliers pour les métropolitains. Et voilà.
Et quel rôle t'as préféré jouer alors, toi, Anthony ?
Moi, j'ai bien aimé jouer le cadavre samedi. C'était super. Le soldat qui était en train d'agoniser dans un champ de betteraves.
T'as déjà vu un champ de betteraves ?
Non, mais j'imagine un peu. Hein. Ça doit être un peu comme un champ de, je sais pas, patates ou carottes, plutôt carottes.
Oh, on a quelqu'un ? C'est Joseph. Hé hey, c'est où ? C'est où, Émilie ? Oudo ? Non ? T'es non ? C'est pas fini, hein ? Oh, elle est pas finie, hein. Oh. Mais elle est pas quoi. C'est pas mon tête. C'est pas mon jambe. Ni mon ventre. Oh, mon jambe. Ah, il fait mal. Pas grave, ça, Lulu. Les fleurs. Bouge plus.
Là, lui là, je l'entends gémir. Eh bien, mon vieux, il était moins une.
Je l'attrape, vas-y, doucement. Pause. Et merde, trop tard. Tu gémiras plus, mon vieux. Bon, y a qu'à l'embarquer ? Au moins celui-là, il aura un enterrement. De toute façon, en 3 jours, il n'y en a pas un qu'a tenu. Par moins un, faut dire.
Ouais, c'est une pitié, tous ces pauvres gars qui crèvent loin de chez eux. D'où qu'ils venaient, tu crois ?
Ouais, je sais pas. De loin, pour sûr. Prends la tête. Ouf. Ah, il passe, animal.
1, 2, 3.
Je m'appelle Chiffre Alexandre. Je suis élève en terminale spécialisé théâtre. Au début, j'avais quelques a priori par rapport à la Première Guerre mondiale et tout ça, mais finalement, je trouve ça plutôt drôle de travailler sur un projet comme celui-là, parce que je me rends compte que c'est pas aussi triste et morose comme je pensais.
Et qu'est-ce que tu as découvert alors ? Qu'est-ce qui t'a étonné ?
Ben, l'implication que les soldats réunionnais avaient justement dans cette guerre. Parce que moi, je croyais que c'était juste des... On les envoyait juste se faire chez le boucher. Et finalement, non. C'est... Si, on les avait quand même chez le boucher, mais... C'est plus poignant, c'est plus émouvant que ce que je me pensais, en fait. Je pensais que c'était à la chaîne.
Et toi, si t'avais vécu à cette époque-là, tu te serais engagé, tu crois ?
Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Même si je pense que c'est important de protéger la patrie, non, j'arriverai pas. J'aurais pas réussi.
Et quel rôle t'as préféré jouer ?
Le ministre.
Le ministre ?
J'ai l'habitude de jouer en classe, en théâtre normal, j'ai l'habitude de jouer des rôles importants comme le ministre de la guerre chez Fedo, le prince dans Cendrillon, et le fossoyeur de Hamlet, mais ça c'est pas très... Mais j'aime bien avoir cette impression d'avoir de l'autorité, alors que c'est tout mon contraire, je suis pas comme ça du tout.
Nom d'une pipe ! Rappelez-moi le nom du genre foutre qui a joué malin d'envoyer les crâles là-bas, car le climat leur était plus adapté, et apportez-moi ce rapport. Au suivant.
Festival Comédie 2014, atelier de création radiophonique avec les élèves du lycée Pierre Poivre de Saint-Joseph. Mort d'un coupeur de canne dans un champ de betterave. Une dramatique radiophonique de Sylvie Gravagna, réalisée par Antoine Chao.
Vas-y.
Alors moi, c'est Steven. Voilà, je suis en seconde avec l'option théâtre facultatif. Comme c'est du théâtre, je suis très passionné par le théâtre. C'est une expérience à vivre dans tous les cas. C'est serait comme tout, quoi.
Qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre, alors, toi, Steven ?
Ce qui me plaît dans le théâtre, en fait, c'est déjà l'idée que... Déjà, on n'est pas soi sur la pièce, on interprète des choses, mais ces choses en elles-mêmes, elles interprètent un message qu'on fait passer à un public, quelle que soit sa nature. Des fois, c'est un message comique, ça peut être pris sous plusieurs angles. Ça peut être un sujet qui peut être tabou de la société, qu'on peut prendre avec le comique, ou quelquefois, c'est même... une vie quotidienne un peu hors sujet, un couple qui se trompe à suivre, et voilà quoi. C'est des trucs qui peuvent arriver comme des trucs qui peuvent pas arriver. Le théâtre, c'est un autre monde.
Et le théâtre radiophonique, c'est la première fois que tu fais ?
Oui. Et personnellement, voilà quoi. Et puis, il y a une différence entre le vrai théâtre et le théâtre radiophonique, parce que même si on n'entend pas, quand on réécoute le truc totalement, quand on enregistre, on a le droit de faire des fautes. C'est un peu comme... en fait, c'est pas qu'il y a que du montage juste derrière, c'est que au moins on voit que même dans un domaine où des fois on dit sans faute parce qu'on doit se présenter, quand on présente devant un public, on n'a pas le droit à l'erreur, mais on voit que, quel que soit le... Des fois, il y a des passages où on a le droit à l'erreur. C'est un domaine où l'humain lui-même a le droit à l'erreur, même en théâtre.
Steven, j'ai un rôle pour toi.
Voilà, c'est un syndicaliste. En fait, c'est un représentant syndical du CPR. Tu vois ce que c'est, le CPR ? C'était le train.
D'accord.
Tu sais, il y avait un train à La Réunion. Et du coup, ils avaient beaucoup de puissance parce que, tu vois, s'ils décidaient d'arrêter de bosser, l'économie... Voilà. Et donc, si tu veux, c'est juste au début de la guerre où ils disent que personne ne s'inquiète. Ils vont régler tous leurs problèmes... pacifiquement, j'aime beaucoup ça, régler pacifiquement tous leurs problèmes pendant toute la durée de la guerre. Enfin, tu vois, ils vont pas faire les malins. C'est ça qu'il explique, voilà. Donc il faut qu'on sente la solennité, tu vois, de la déclaration, quoi. Est-ce qu'ils ont tenu ? Bon, je sais plus, je crois que oui. Enfin, voilà, bon, bah, écoute, je te laisse bosser ce texte-là. Pas facile, parce que c'est des...
Je l'ai pas, celui-là, par contre.
Comment ?
Celui-là, c'est...
C'est l'épisode 1.
Épisode 1.
C'est parti. Des syndiqués du CPR, devant la situation actuelle de la France en guerre, adressent à Monsieur le gouverneur, représentant du président de la République dans la colonie, l'expression de leurs sentiments profonds, attachement à la mère patrie. De plus, ils prennent l'engagement formel de régler pacifiquement pendant toute la durée de la guerre toute difficulté pouvant survenir entre eux et l'administration du CPR.
Bienvenue sur Radio Comédie, tous les jours de 17h à 18h sur LFM.
Alors aujourd'hui, on a mis Clémence derrière le son, on a sorti Antoine et on va demander déjà à Antoine ce qu'il pense. Il faut savoir qu'Antoine, il a proposé le projet de Radio Comédie. Alors Antoine, comment ça se fait que vous connaissez le Comédie, depuis quand déjà ?
Alors moi déjà, je voudrais remercier Clémence qui m'a remplacé à la console. Donc c'est elle qui fait la technique aujourd'hui, donc je peux être ici en plateau avec vous. Dans le studio D4 du lycée Pierre Poivre. Et donc, moi, j'ai rencontré l'équipe de Comédie. Et j'ai découvert le festival l'année dernière parce que je suis venu avec ma compagne, ma copine que vous connaissez, qui s'appelle Sylvie Gravagna, qui avait présenté son spectacle ici dans le festival, un spectacle qui s'appelle Victoire, la fille du soldat inconnu. Et je l'ai accompagné pour faire la régie technique. Donc la technique, un peu ce que je sais faire à la radio aussi. Donc moi, j'ai un peu l'habitude d'utiliser ces machines, ces consoles, etc. Donc parfois, je l'accompagne. Et d'autant plus, quand j'ai appris qu'elle partait à La Réunion, je lui ai proposé de l'accompagner moi et de faire la technique, et la régie, qu'on dit, de son spectacle. Voilà. Donc j'ai découvert La Réunion, j'ai découvert le festival et j'ai découvert des gens très chouettes qui travaillent, qui participent et un public aussi très enthousiaste et très chaleureux.
Comment vous avez fait pour arriver jusqu'à la radio en fait ?
Je suis arrivé à la radio un peu par hasard, mais avant j'ai fait de la musique, après j'ai fait du théâtre pendant des années, enfin quelques années, dans une compagnie qui s'appelle Royal Deluxe. Donc j'ai fait technicien et comédien à la fois. Donc moi, je m'occupais aussi des bandes-son, des bruitages sur un spectacle qui s'appelait Le Géant tombé du ciel, qu'on a tourné pendant 2 ans. Mais après, petit à petit, moi, j'étais passionné de musique, donc notamment de musique afro-caribéenne, de musique afro-cubaine, de musique latine en général. J'avais ramené de mes tournées en Amérique du Sud beaucoup de disques vinyles. Donc, j'ai commencé à travailler et à faire écouter de cette musique-là dans des endroits, dans des clubs, dans des boîtes de nuit, dans des cabarets, etc. Et donc, j'ai été contacté après par une radio qui cherchait un programmateur. C'est une radio qui existe toujours, qui s'appelle Radio Latina à Paris. Et il se trouve que ça me parlait parce que mon père aussi faisait de la radio. Donc lui, il a travaillé pendant longtemps, toute sa carrière à RFI, Radio France Internationale, où il s'occupait des programmes pour l'Amérique latine. Donc voilà, je me suis retrouvé sur les pas de mon père Ramon, voilà.
Vous êtes donc habitué à la radio et tout. Comment ça se fait de travailler avec des lycéens, des jeunes ? Ça donne quel effet en fait ?
Alors moi, j'ai tout de suite voulu travailler avec des jeunes ou des moins jeunes, mais en tout cas transmettre et participer, disons, à développer l'envie de faire de la radio chez les jeunes et les moins jeunes. Donc j'ai tout de suite, bon, d'abord j'ai commencé par apprendre moi la radio parce que j'étais autodidacte, mais j'ai tout de suite essayé de faire une émission. Donc j'ai demandé un créneau dans l'émission dans laquelle je travaillais, où je faisais tous les jours toutes les semaines, hein, tous les dimanches, 2 heures de musique, d'émission sur les musiques afro-cubaines, hein, le jazz afro-cubain. Une émission qui s'appelait Cubanobi, Cubanobob. Donc tous les jours, voilà, je me retrouvais devant un micro avec 2 heures d'antenne à remplir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris, avec beaucoup de sueur, de nuit blanche, à essayer d'écrire des micros, de pas bafouiller devant le micro, de trouver des musiques. Et après, j'ai commencé à faire des interviews. Donc j'ai pris un magnéto, je suis sorti, je suis allé rencontrer tous les artistes. Disons d'Amérique du Sud, hein, qui venait ou des Caraïbes, hein, qui venait à Paris pour jouer. Donc j'ai rencontré Ray Barreto, j'ai rencontré tous les grands musiciens du moment. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et comme ça, petit à petit, j'ai appris, quoi. J'ai appris. Et assez vite, j'ai voulu partager ce que j'avais appris. Donc, j'ai commencé à monter des ateliers de radio dans des collèges, dans des lycées, dans des festivals. J'ai aussi fait des ateliers radio dans des prisons et dans des endroits où les gens pouvaient pas avoir accès à toute cette connaissance, à toute cette technologie, on va dire. Bon, même si maintenant c'est assez accessible, hein, ça coûte pas cher. Le matériel, disons, radiophonique coûte de moins en moins cher parce que ça s'est miniaturisé. Il y a des petits magnétophones, il y a des petites consoles, des petits ordinateurs, etc. Ça permet de faire de la radio très simplement. Mais quand même, il y a des endroits où on n'a pas idée de faire de la radio, ou alors on n'a pas l'habitude d'écouter la radio. Donc moi, je m'intéresse aussi ce qu'on pourrait appeler le décryptage des médias ou le décryptage de la radio, c'est-à-dire comprendre comment sont les radios, ce que sont les radios, donc plutôt aussi amener les gens à devenir des auditeurs, des auditeurs avertis, donc qui ont une connaissance de tout le panorama. Il y a beaucoup de choses à la radio et beaucoup de choses différentes, hein, et il y a à boire et à manger.
En fait, est-ce que c'est la première fois que vous faisiez dans des lycées comme La Réunion ?
Alors à La Réunion, c'est la première fois que je fais de la radio.
D'accord.
Effectivement, mais après, j'ai fait d'autres radios dans d'autres lycées, collèges. Je travaille depuis des années à un lycée à Saint-Denis, mais à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, au lycée d'un quartier qui s'appelle le Franc-Moisin. Et donc, il y a un BTS audiovisuel et depuis des années, donc j'interviens là-bas. Et on a du coup fait un partenariat avec Radio France, hein, parce qu'il se trouve que depuis plus de 10 ans, je travaille à France Inter. Et donc voilà, j'ai l'habitude d'aller sur le terrain et d'essayer de transmettre le savoir, ce savoir-là, celui qui est le mien, dans un souci d'éducation populaire ou d'émancipation populaire. Donc c'est proposer aux gens de pouvoir s'exprimer, quoi. Voilà, c'est ça le travail du reporter de base, et d'autant plus du reporter, réalisateur, producteur que j'essaye de vous apprendre.
Alors, tout à l'heure, il y avait une notion de nuit blanche. Alors, avec tout le montage, oui, parce que les auditeurs n'entendent pas tout ce qu'on fait comme gaffe. Combien de temps ça vous prend au niveau du montage, surtout au niveau de la radio, au niveau de l'émission ? Ça vous a pris combien de temps juste à La Réunion ?
Alors, ça prend beaucoup de temps. Ouais, j'y passe mes journées et une partie de mes nuits à monter ces émissions. Mais bon, c'était comme une envie que j'avais, hein. J'ai proposé de monter cet atelier radio et de développer un projet de radio ici. Et du coup, maintenant, j'assume, quoi. Du coup, effectivement, moi, parfois, je dis que la radio est un sport de combat. Enfin, moi, je pratique la radio comme un sport de combat contre les inégalités, contre les injustices sociales, etc. Et là, ça devient un sport de haut niveau, là, au niveau du montage, etc. Oui, donc il faut que je fasse attention, que j'essaie de me reposer, de pas trop boire le soir, etc., pour garder une condition physique qui me permette quand même de travailler beaucoup d'heures par jour et par nuit.
Et sinon, vous pensez quoi des élèves de La Réunion, de leur travail et tout ça ?
Alors, je vous trouve formidable, c'est pas parce que vous êtes là. Hein. Non, mais voilà, on a commencé doucement, et puis là, on est tous là autour de cette table, et on est une dizaine dans ce studio des quatre. Hein. J'espère que ça deviendra effectivement pour toujours le studio des quatre, hein, du lycée Pierre Poivre. Et vous êtes, ça y est, vous avez pris goût, hein, et je suis content de vous avoir transmis cette envie, quoi, et cette passion qui est la mienne. Alors, c'est peut-être pas encore une passion chez vous, mais vous voyez que c'est possible et qu'on arrive à faire des belles choses avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie, quoi, et de motivation.
Est-ce que vous reviendriez à La Réunion pour faire une radio ?
Avec plaisir, hein, avec plaisir, bien sûr. Mais j'aimerais que ça ne s'arrête pas. Alors après, moi, j'aime transmettre aussi. Je vais pas. J'aime bien monter des projets, mais après, il y aura peut-être des gens qui prendront le relais, qui prendront la suite. Alors... Je pense à vous, hein.
D'accord. On va mettre Clément sur montage et tout.
Ouais, je suis là.
Alors, moi, j'ai une question. C'est. Bon, attendez, tant que je la retrouve vite fait, là, comment la reformuler. C'est au niveau ben, de la Réunion, justement. C'est pas dérangeant parce qu'on entend souvent les métropolitains avec le climat et tout. C'est pas dérangeant de se réadapter au fuseau horaire et tout.
Non, écoute.
En plus que ton ordi, il y a le décalage horaire dessus.
Oui, oui. Mais moi, tu sais, moi, je fais du reportage. Je fais bon, ce qu'on appelle le grand reportage, c'est-à-dire je pars à l'étranger, je fais beaucoup de voyages, bon, sur des périodes plus courtes, hein, parce que là, je vais rester presque un mois ou trois semaines, un mois ici à La Réunion, mais je pars régulièrement en Amérique latine, en Afrique, en Europe de l'Est pour faire des reportages. Donc, j'ai un peu l'habitude voilà, d'encaisser les décalages horaires et tout ça, et puis les différences de température, de climat, etc. Donc, non, moi, ça ne m'affecte pas trop. Au contraire, ça me plaît.
Ah, ça vous plaît, il y a la plage. Et on vous entend parler, la radio, c'est une histoire de manger et de boire. En fait, la radio, c'est une façon de vivre.
Ouais. Enfin, moi, c'est mon métier, donc effectivement, c'est grâce à la radio que je vis et que j'élève mes enfants, etc. Oui, tout à fait.
Pourquoi avoir choisi Radio Comédie ?
Alors, Radio Comédie, parce que j'ai proposé au festival, hein, donc à Philippe Guirado, de monter ce projet radio. Philippe... qui connaît mon travail de reporter à la Basse J'y suis et qui connaît notre engagement hein, donc de faire une émission, disons, savante et populaire, comme on dit, donc, et qui se met au service voilà, de causes qui nous touchent et qui nous ressemblent. Donc j'ai eu envie de proposer cet atelier ici. Donc, et je suis content de le faire et je suis content de la façon dont ça se passe et je suis content qu'on soit tous là autour de ce studio aujourd'hui.
Bon, bah Antoine, on va vous laisser. Vous avez encore du montage à faire.
Merci pour tout. Oui, il faudrait le dire aussi que c'est donc, lui qui a tout fait, enfin, qui nous a initié à la radio. C'est grâce à lui que là, on nous entend et tout ça. Et on voudrait vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et
c'est merci. Un plaisir.
C'était la 5e de Radio Comédie.
Nous vous remercions beaucoup d'être à notre écoute.
Et on vous dit à plus tard.
À demain.
Avec Antoine Chao et les élèves du lycée Pierre Fouad sur LFM.